Frères et sœurs, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien? Malgré le froid? C'est ça, ça tue les crobes. S'il revenait demain, s'il revenait demain, c'est peut-être le titre de ce moment sous forme d'interpellation. Oui, s'il revenait demain, comment serions-nous? Dans quel état serions-nous? L'état spirituel, je ne vais pas parler de l'état physique. Pour nous conduire dans cette réflexion, je propose de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8, et notamment le dernier verset. Dans la version Semeur. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crie à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre. » Quelle étonnante question, tant sur la forme que sur le fond. Alors que son ministère entre dans ses derniers mois, qu'il n'est pas accompli, Christ pose déjà la question lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Il est donc venu une première fois, ça c'est une certitude, mais il nous dit aussi qu'il reviendra et nous verrons un peu les raisons. Mais cette question en amène d'autres, tout d'abord à propos de la foi. La foi en quoi, vers qui, vers quoi, et ce qu'il doit en rester. Ensuite, à propos de la question même, si en effet il devait trouver la foi, la formulation eût été autre, plutôt tournée comme une affirmation. Je retrouverai la foi ou j'irai vers ceux qui ont gardé un peu de foi. Non, la construction même implique une réponse presque négative. Non, il n'y aura plus de foi. Comment la garder? Comment en avoir un peu? Mais je vous propose d'abord de prier. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que tu étais un Dieu merveilleux. Tu nous as rappelé combien tu nous aimes. Combien celui que tu as chargé de nous dire, combien tu nous aimes, est mort pour nous. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, rends-nous attentifs à ce que tu as à nous dire encore ce matin, et permets que dans chacun de nos cœurs nous gardions ce souvenir vivant de Jésus. Amen. Seul l'évangéliste Luc rapporte cette parabole du juge unique et de cette veuve. On peut noter aussi, pour replacer dans le contexte, que c'est sur la route de Jérusalem que cet enseignement est donné aux disciples, alors que Christ est dans les derniers mois de son ministère. Quelque temps avant, dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, Le long de la Samarie, Jésus a guéri 10 lépreux. Et seul, un Samaritain est venu le remercier et louer Dieu. Tous ont donc sous les yeux la réalité du royaume des cieux, la réalité que le royaume des cieux est venu jusqu'à eux. Mais les pharisiens demandent quand même, mais quand est-ce qu'il viendra ce royaume ? Christ leur dit, tout le retour, dit tout sur le jour du retour, et qu'il sera impossible de faire quoi que ce soit. Qu'il ne faudra pas écouter les bruits de guerre. Qu'il ne faudra pas écouter, pardon, ceux qui diront « Non, il est là, attention, il est par là. » Il nous dit aussi que dans un même lit, une personne sera prise et l'autre non. Que deux femmes qui moudront, sur deux femmes qui moudront, l'une sera enlevée et l'autre non. C'est là que notre passage se trouve. Un peu plus loin, Jésus déclare son amour pour les enfants en précisant que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alors, établissons un parallèle avec un homme qui a enseigné son peuple, qui a conduit le peuple. Un homme, Moïse, est monté sur la montagne, il y a environ 1500 ans avant Christ. Nous pouvons lire ce récit dans le livre de l'Exode, au chapitre 31, au verset 18. Il s'agit dans ce passage de l'Éternel qui donne à Moïse les instructions pour conduire le peuple. La loi, afin que chacun sache ce qu'il doit faire pour rester dans la présence de Dieu. Cette loi est décrite par Dieu au chapitre 32, verset 16. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Mais le peuple, resté en bas, trouve le temps long, 40 jours. 40 jours sans voir Moïse. Il venait de sortir de l'Égypte, d'avoir été conduit, d'avoir traversé la mer. Et ce peuple-là se fabrique des idoles, une idole, un veau d'or. La conséquence pour Moïse est énorme. Au verset 19b, toujours de ce même chapitre, il est écrit « La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » Le temps de la sanction tombe, Moïse rassemble les Lévites autour de lui. Ils vont sanctionner les fautifs. Il leur dit « Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre » et que chacun tue son frère, son ami, son parent. La sanction, elle est vraiment terrible. Au verset 35, nous pouvons lire, l'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. Le symbolisme est prenant. Alors que Dieu donne la promesse de liberté, donne la loi, alors que Moïse ne s'absente que 40 jours, le peuple se fabrique déjà une idole. La loi est descendue, le péché est révélé, les tables sont brisées, les pécheurs meurent. On pourrait dire que la loi ne sert plus puisqu'elle n'est pas respectée. La colère de Dieu tombe sur les fautifs, la mort. La loi révèle donc le péché. Simplement, et la sanction du péché, c'est la mort. Paul nous laisse dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » L'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous dit « La loi n'a rien amené à la perfection. » Voyons 1500 ans plus tard. Quelques mois avant le passage que nous avons lu, Jésus est lui aussi sur la montagne, à la rencontre de Dieu. On peut lire ces passages dans Matthieu, au chapitre 17, dans Marc, au chapitre 9. mais dans Luc au chapitre 9. Il est monté là, il est avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont mis en présence de Moïse, symbolisant la loi, Élie symbolisant les prophètes. Une nuée les entoure, et une voix qui en sort dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Il n'est plus question de table, mais d'écoute. Plus question de table écrite, extérieure au cœur, extérieure à l'être humain, mais de paroles prononcées par l'Esprit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit ». Christ est donc venu accomplir ce que Jérémie avait prédit, qui est repris dans l'épître aux Hébreux, « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leur pensée. » Paul nous dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens, « Il est évident que vous êtes une lettre vivante que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur vos cœurs. » Mais puisqu'il est venu graver nos cœurs, de façon à ce que nous obéissions de l'intérieur, est-ce que la loi est passée? Est-ce que la colère de Dieu, comme au temps de Moïse, a disparu? Non. Non, non. Et c'est là tout le fondement de notre foi. La colère n'a pas passé, la colère de Dieu n'a pas passé, mais elle s'est portée sur son Fils bien-aimé pour notre salut. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Christ nous dit lui-même, « Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur eux, un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » À la croix, il s'écriera « Tout est accompli », mais bien plus qu'innocent de tout péché, Dieu l'a ressuscité. Or, si cette parole « Dieu a porté sa foi à son crédit » a été consignée dans l'Écriture, nous dit Paul, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il l'a délivré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. C'est là le fondement de la foi. De savoir comment comprendre par l'Esprit l'étendue de son sacrifice à cause de nos péchés par amour. Pour les hommes, de sa résurrection pour notre salut. C'est ce que notre Seigneur, pendant son ministère, a enseigné de différentes manières à ses disciples. Et il l'a prévu que cet enseignement nous parvienne par écrit maintenant. Car bien que les tables aient été détruites, il reste fort heureusement les écrits pour nous permettre aujourd'hui de muscler notre foi. Il est donc venu pour notre salut, ainsi qu'il a écrit en Actes 16:31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Il est vrai que cette affirmation est facile et simple, sans condition, sans restriction. Même pour Pierre, ce ne fut pas simple. Alors que les disciples rentrent en barque vers Génézareth, d'avoir nourri des milliers d'hommes du côté de Bethsaïda, Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Les voyant, les disciples furent troublés, nous dit le texte. Et Jésus les rassure. Pierre entend sa voix et lui dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Puis voyant que le vent était fort, il eut peur. Il est là à côté de Jésus, il marche sur la mer, puis son attention est détournée par le vent. Le symbolisme là de la barque représente la personne. La mer représente la vie. Le vent, la pluie, les événements extérieurs, les épreuves. Pierre marche donc avec Jésus sur les événements. Puis la peur. Peut-être a-t-il pensé comment vais-je payer la prochaine traite de ma barque. Ou bien s'est-il demandé comment s'occuper de son petit dernier qui avait des difficultés à l'école. Ou bien s'est-il demandé comment payer mes employés qui pêchaient avec lui. Ou bien comment réorienter sa vie professionnelle. Notre foi est-elle devenue comme celle de Pierre et d'autres, alors que nous avons toute la démonstration de son amour? Comment nous positionnons-nous quand nous marchons dans la vie face aux événements qui surviennent? Notre foi est-elle de la même quantité que celle de Pierre à ce moment-là, quand nous avons l'impression de prendre l'eau? Au point que Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il toujours la foi sur terre? Mais regardons le texte. Pierre s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Et la réponse merveilleuse de Jésus, merci Aurore. Non, c'est pas le texte. Et la réponse merveilleuse de Jésus, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Même là, dans le doute, dans la pensée de Pierre, Christ répond. Il répond, il est présent chaque fois qu'un homme s'adresse à lui et par la foi lui demande d'être sauvé. Il répond favorablement. Il y a quelques années en Alsace, un chapiteau est installé près d'une grande ville sous lequel il y a une campagne d'évangélisation. L'orateur, un pasteur appelle à la guérison des âmes. Une mère et sa fille ayant un pied beau passe devant. Dans l'encadrement de ce grand chapiteau, la fille entend ce pasteur déclarer, affirmer, proclamer que Jésus peut guérir. Maman, viens, entre. Le monsieur dit que Jésus peut me guérir. Non, ma chérie, dit-elle, ce n'est pas possible. Et elles s'éloignent toutes les deux. Maman, ce Jésus ne pourrait pas me guérir. Dis, maman, on ne pourrait pas essayer. La maman cède et lui promet que le lendemain, elles iraient. En rentrant à leur maison, sur le chemin du retour, elles passent toutes les deux devant un magasin de chaussures. Et la petite lui demande d'en acheter une paire. La mère n'a pas le courage de dire non. Tant bien que mal, le vendeur propose une paire qui plaît à la petite fille et qui pourrait lui aller. Le lendemain, elle se présente donc sous le chapiteau. La petite fille s'approche du pasteur, après l'appel, qui la voyant venir lui demande « Mais que veux-tu ?»« Je viens guérir, comme vous l'avez dit, guérir mon pied. » Il est un peu interpellé. « Et qu'as-tu dans cette boîte ?» lui demande-t-il. « Ma paire de chaussures, pour quand je serai guéri ?» Ça peut être un moment de doute, même pour un homme de Dieu. Alors ce pasteur prie. Seigneur, tu vois cet enfant. Tu vois sa foi, Seigneur. Elle croit que tu peux la guérir. Alors Seigneur, ne la déçois pas. Guéris-la. Et là, dans un craquement d'os assez effroyable, le pied devient normal. Amen. La foi de cette petite fille, elle était petite, mais elle avait compris. Jésus guérit. La foi de cette petite déplaçait les montagnes. Quelques versets après le texte qu'on a lu, il est écrit « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. on est appelé à mettre notre confiance en Dieu. Comment est notre foi? La définition de la foi en français, dans le langage français, c'est une tournure d'esprit d'une personne ou d'un groupe. Tournure d'esprit d'une personne ou d'un groupe. Le terme biblique, lui, évoque une relation entre le Dieu de la Bible et son peuple, tant individuellement que collectivement. La foi biblique, telle qu'elle est décrite, est une adhésion de l'intelligence et du cœur. Le terme biblique de la foi est au cœur de la relation. D'ailleurs, les images, les paraboles pour illustrer cette idée sont le mariage, sont la relation entre un père et son fils, entre le roi et son peuple. La foi est une relation réciproque. En Christ, Dieu réalise sa promesse pour nous. Leur relation père-fils est sans équivoque. Et la nôtre, comment est-elle? Nous n'avons pas attendu 40 ans en bas de la montagne pour le voir redescendre. Non, le temps de la grâce est encore ouvert. Et merci Seigneur d'avoir laissé à Pierre, dans sa deuxième épître, le soin de rappeler qu'il ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Comment évolue notre foi pour que, jour de son retour, nous soyons trouvés dignes devant lui? Dans l'Épître aux Colossiens, Paul écrit « Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne de Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » Nous sommes là dans la mesure de la foi. Combien en avons-nous? Combien en reste-t-il? Dans le chapitre 17, au verset 20, il est écrit, et c'est Christ qui parle, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Avez-vous déjà vu une graine de sénévé? Cette graine est extrêmement petite, voire minuscule. Elle disparaît au fond d'une poche, quasiment impossible à attraper. Pourtant, et à plusieurs reprises, il nous interpelle, nous disant que notre foi est bien petite. Cette petite graine, donne un arbuste avec de larges feuilles sous lesquelles des oiseaux viennent se mettre à l'abri. Je vais demander à Amélie, Lucie et Suzanne de distribuer, s'il vous plaît, cette petite carte. Il y a dessus collé, et peut-être s'il y a une quatrième, Marion. Merci Marion. Distribuer ces petites cartes, elles n'ont qu'une vocation. Hein. Un pense-bête. Il n'y a pas d'idolâtrie, rien. C'est pour matérialiser la quantité de foi. Alors il y a trois graines par... trois ou quatre graines, il y en a peut-être quelques-unes qui n'en ont qu'une, pour matérialiser la quantité de foi nécessaire pour déplacer une montagne, autrement dit pour faire quelque chose d'impossible, à notre vue. Ça a été juste fait pour que ce soit posé, par exemple, sur une table de nuit et que le soir on puisse se dire quelle a été ma quantité de foi aujourd'hui. Le matin en se levant, merci Seigneur de me donner suffisamment de foi pour déplacer les montagnes. Déplacer la montagne de mes incrédulités. Déplacer la montagne de mes doutes quelquefois. déplacer la montagne de mon manque de hardiesse pour proclamer son nom, de déplacer la montagne du confort sur lequel, dans lequel je suis dans ces temps modernes. Cette foi, cette relation avec lui, cette intimité avec lui, nous est d'autant plus indispensable que nous marchons par la foi, non par la vue, nous dit Paul. Et cette foi nous est d'autant plus indispensable qu'au moment de sa venue, elle se transformera en vue réelle, car nous le verrons, est-il écrit. Jean, dans sa première épître, nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Amen.
Amen.
La foi, c'est l'abandon total de notre vie dans les mains du Christ. La foi, c'est participer à l'annonce de la bonne nouvelle puisque nous partageons déjà sa vie. La foi, c'est de croire et de voir qu'il arrache encore des âmes aux ténèbres. La relation intime avec Jésus nous conduit à avoir en nous son esprit, qui nous conduit à avoir du fruit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses, nous écrit Paul dans l'Épître aux Galates. Il y a dans la Bible des hommes de foi. Ils sont repris de manière un peu particulière au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Des hommes qui ont marché par la foi. D'ailleurs, ce chapitre commence par cette parole. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Sans connaître Christ, leur foi était irrévocable. Abel et son sacrifice ont été préférés par Dieu par rapport à Caïn. Noé, dont la foi le pousse à construire un bateau qui, aux yeux de ses contemporains, devait le faire passer pour un véritable fou. Abraham, qui part d'un pays dans lequel il était bien, confortable, pour aller vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Soyons conscients que l'amour de Dieu se retrouve dans l'intimité que l'on a avec Jésus. Au travers des verbes « espérer » et « connaître » du verset, la foi n'est pas qu'humaine, c'est un don de Dieu. Il nous donne aussi le moyen de partager son intimité. Au verset 12 de l'Épître aux Hébreux, au verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux de l'Ancien Testament, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ? Trouvera-t-il encore une relation intime avec lui dans nos cœurs? Au point que nous voulions la faire découvrir à d'autres. Au point que nous ne voyons pas dans nos assemblées des hommes et des femmes, mais l'image de cette relation avec Jésus. Car il ne faut pas oublier que le temps de la grâce va se terminer. Puisqu'il revient. Cette seconde venue, elle est pour le jugement. Et là, il sera trop tard. nous n'aurons le temps de rien. Il est précisé que le retour sera comme un éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Dans le chapitre 24 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, les versets nous rapportent combien seront rapides les événements, combien ils seront imprévisibles. Ils se dérouleront sans que nous ayons le temps de réagir. Il faudra être prêt. Nous sommes invités à être prêts avant. Il faudra que nous soyons parés, que nous ayons dans nos cœurs, dans nos intelligences, une relation, que nous gardions une relation intime avec lui. Dans le livre de l'Apocalypse, on peut lire « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu, ne laissant pas apparaître sa honte aux yeux de tous. » Il nous est dit là comment il va revenir et comment nous devons rester vigilants et persévérants. Personne ne sait quand le voleur viendra. Mais nous devons rester attentifs. En conclusion, nous avons vu que la première venue est pour le salut des hommes. Pour que chacun des êtres humains, et ça nous a été rappelé ce matin, ait entendu comment Dieu a aimé le monde. La seconde venue sera pour juger les habitants de la terre. Entre ces deux temps, nous sommes invités à construire avec lui, par lui et en lui, une relation intime, une relation de foi. Dans sa première épître, Jean résume cette pensée, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. C'est dans notre relation, c'est dans l'intimité de notre relation avec Christ qu'il nous montrera les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. En plus de ces quelques graines, gardons dans nos têtes ce verset tiré de l'Épître aux Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voulons-nous lui plaire? Voulons-nous nous approcher de lui? Alors, gardons notre foi active de sorte que nous lui plaisions, de sorte qu'il, s'il revenait là maintenant, s'il revenait demain, tous ici là, nous ne soyons pas concernés par cette question. Y aura-t-il encore un peu de foi sur la terre? Amen.
Avant de vous souhaiter une bonne semaine, je prie pour connaître vraiment mieux cet après-midi et cette semaine. On pourra très bien ça. Oui Seigneur, tout vient de toi, et notre foi que nous pouvons avoir vient aussi de toi Seigneur. C'est notre prière aujourd'hui que tu fasses grandir notre foi, que tu fasses grandir notre relation avec toi, et c'est notre vœu pour cette semaine aussi de focaliser nos pensées sur toi, de chercher à te connaître nous. Amen. Amen.
Tu es un petit peu